Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la présentation annuelle, donc des résultats annuels donc 2021 du groupe Lumibird. Donc j'aurai le plaisir de faire cette présentation, donc accompagnée en fait de Madame Aude Longourand, donc directrice financière du groupe Lumibird, donc de Monsieur Jean-Marc Gendre, directeur général délégué, et de Monsieur Pierre Valalta, donc conseil stratégique donc en finance. Alors en introduction, donc bon, je vous rappelle en fait quelques éléments clés en fait donc du groupe. Donc bon, Lumibird est une société spécialisée dans les technologies laser, donc un groupe aujourd'hui enfin, ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire, donc avec donc un peu plus de 900 salariés, une entreprise donc en forte croissance, qui a atteint en fait donc un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros donc en 2021, donc qui a en fait une opération donc dans une présence dans plus de 110 pays, donc avec des sites de production en Amérique du Nord, donc en Europe, donc en Australie, 9 au total, donc et deux divisions donc essentiellement, donc une division photonique qui regroupe toutes les activités de fabrication, enfin de conception et de fabrication laser, plus donc l'activité donc lidar, donc une activité donc qui compte donc un, enfin qui représente un chiffre d'affaires de 76,4 millions d'euros donc en 2021, soit 47% du chiffre d'affaires total, et une division médicale spécialisée en fait sur les systèmes médicaux, donc qui représentent 53% en fait du chiffre, et sur la base d'exercice 2021, qui s'établit à 86,1 millions d'euros. Donc une présence très forte donc à l'export, donc plus de 82% du chiffre d'affaires donc réalisé à l'export. Donc bon, vous le verrez en fait donc dans cette présentation, je passerai la parole à Jean-Marc ensuite, et à Aude. Donc outre le fait que l'activité donc a fortement progressé en fait donc en 2021, cette progression de chiffre d'affaires donc c'est également accompagné donc d'une progression significative en fait donc de la marge, au final, pour résumer, l'exercice 2021 est une très belle année en fait donc pour le groupe, puisque nous sommes en ligne avec nos projections, et évidemment extrêmement confiants pour la suite des opérations. Donc je vais laisser maintenant la parole à Jean-Marc, qui va présenter un petit peu plus en détail maintenant les marchés de l'univers. Jean-Marc.
Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Suite à la présentation de Marc, qui vous a parlé des deux divisions, et la photonique d'un côté et le médical de l'autre. Mais avant ça, je voudrais juste vous rappeler un peu la dynamique globale du marché des lasers. On parle de milliards de dollars et d'un CAGR de 20, de 9, quasiment 10% entre 2020 et 2025. Le marché global est 26 milliards, et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés potentiels de Lumibird sont à hauteur de 40% de ce total. Marché potentiel, bien sûr. Alors, on va retrouver à la fois pour le médical et à la fois pour la photonique deux choses: les applications dans lesquelles nous travaillons. Pour le médical, je rappelle que nos produits que vous voyez sur la droite, qui sont des lasers, des échographes ou des outils de diagnostic dans la sécheresse oculaire, participent au diagnostic et au traitement des quatre grandes causes de cécité: le glaucome, la cataracte, la DMLA. Également la sécheresse oculaire, première raison pour un patient d'aller voir un ophtalmo dans le monde. Et puis, depuis maintenant 3 ans, on progresse en échographie interventionnelle, en dehors de l'ophtalmologie, et avec les outils, avec les produits d'une gamme très spécifique. Donc ça, ce sont les applications principales médicales dans lesquelles nous travaillons. On aurait pu rajouter l'OIM médical, mais on le verra un petit peu plus loin. Et puis dans la photonique, les quatre applications, les trois grosses applications, c'est industriel et scientifique. Vous voyez des lasers principalement de puissance qui vont servir à découper ou autres utilisations. Et puis les capteurs lidar avec trois applications importantes, tout ce qui est wind sensing, l'automotive, la DAS, et les cartographies, le 3D mapping. Et enfin, nos applications défense et spatiale, que ça soit télémétrie ou que ça soit communication laser. Donc, deux gros marchés pour nous, deux indications pour nous, de nombreuses applications possibles. Nous souhaitions vous rappeler ça. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve sur le slide suivant? C'est finalement la répartition de notre chiffre d'affaires. Tout à l'heure, Marc a parlé de notre implantation internationale. Nous sommes bien sûr une société à l'ADN français, mais quand on regarde un petit peu tout ça, on s'aperçoit que 42% de notre chiffre d'affaires en 2021 est réalisé sur la zone Europe, 32% sur la zone APAC, avec une progression significative entre 2020 et 2021 sur cette zone-là. Et enfin, sur la zone américaine, on parlera de 26% de répartition de notre chiffre d'affaires. Donc, quelque chose d'assez régulier sur les trois grands marchés mondiaux, les trois grandes répartitions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la répartition entre le médical et le photonique, mais l'iconographie vous permet de suivre ça éventuellement. Donc, un chiffre d'affaires réparti entre les deux divisions. Derrière ça, une répartition géographique intéressante aussi. Pour aller maintenant sur l'historique de croissance que nous avons fait et suivi depuis maintenant 6 ans. On a démarré bien sûr en 2016 autour de Kéopsis, une succession d'intégrations réussies avec bien sûr les effets Covid en 2020 et 2021, la petite iconographie le rappelle, pour arriver aujourd'hui, comme on l'a précisé, à un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros, ce qui fait depuis 2016 une croissance importante bien sûr de la croissance organique, hein, 22 points réguliers, et puis 68% de croissance externe quand on compare entre les deux limites de chaque côté de 16 et 2021. Donc en dessous, vous avez, je ne vais pas revenir, on en a suffisamment parlé, de l'arrivée de Cantel auprès de Kéopsis, puis après de Halo Photonique et Optotech en 2019, Elex en 2020, un petit break en 2021 pour intégrer tout ça, et puis la poursuite, en tous les cas, de nos ambitions qu'on verra plus tard. Un dernier, on verra les chiffres dans le détail après, mais je rappelle simplement que la réalisation du chiffre d'affaires 162 millions de 2021 doit se comparer en pro forma. Je vous rappelle qu'Elex en 2020, c'était 6 mois, donc on a décidé en permanence de se comparer à une année complète. Donc c'est pour ça qu'entre parenthèses, vous verrez PF pour Proforma, donc 146,7 millions au total en 2020, 162,5 millions. Le poids de trois divisions dans la partie photonique, hein, le défense spatiale 20 millions, industriel et scientifique 33,9 millions et les capteurs LIDAR 22,4 millions. Et puis la performance du médical qui a croît de 10, pratiquement 11%. Rien de particulier à préciser dans le petit carré de droite, si ce n'est que dans le défense et le spatial, je rappelle que on a l'amortissement du contrat Mégajoule, hein, dont on avait anticipé la diminution lente mais inexorable. Et puis, par contre, à côté de ça, la montée en charge de nouveaux contrats qui compensent ça, puisque nous sommes à l'équilibre. Sur les lidars, rien de très particulier. On est retourné en développement pour les nouvelles générations d'ADAS. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, bien sûr, pour la suite. Et puis, on avait communiqué sur les systèmes LIDAR, donc ces systèmes plus importants qui servent à différentes mesures, notamment des mesures aérologiques. Et puis, après un début d'année où on avait un rythme de commandes qui était relativement faible, on vous avait annoncé, ça s'est confirmé, la reprise des ventes des systèmes pour le S2. Et puis le médical, le déploiement des synergies commerciales. Donc au final, une année 2021 intéressante avec une croissance à deux chiffres, 11%, un équilibre dans toutes nos divisions. Donc ça, c'était pour la partie présentation du groupe et la partie peut-être plus de détails sur le chiffre d'affaires. Et là, je vais laisser la parole à Aude pour rentrer plus dans le détail des finances.
Bonjour. Merci Jean-Marc. Donc avant de rentrer dans le cœur des chiffres, un petit point sur finalement les faits marquants de cette année. C'est une année qui fait suite à deux années où le groupe a été très actif en matière de croissance externe, particulièrement en 2020 avec l'acquisition d'Elex à mi-année. Également, elle fait suite cette année 2021 à une année 2020 très marquée par le Covid, où le groupe avait d'ailleurs démontré sa capacité à réagir et à s'adapter à ces aléas sanitaires. L'année 2021 n'est pas exempte de difficultés liées au Covid pour Lumibird comme pour l'ensemble du marché. Sur cette année 2021, on la considère comme une année de consolidation. Il a mis en œuvre les synergies qui étaient attendues et a consolidé ses points forts. Trois éléments importants. D'une part, l'activité. Je ne vais pas redire ce que Jean-Marc a dit. Un chiffre d'affaires qui est en croissance de 28,2% en données publiées et 10,7% en données pro forma, donc des périodes comparables, avec une croissance équilibrée dans les deux divisions. C'est un des piliers du groupe, sa capacité à avoir une croissance de son activité. Deuxième pilier, c'est une croissance de l'activité qui est rentable. Le groupe continue à améliorer sa rentabilité. Le résultat opérationnel courant progresse en valeur et en poids du chiffre d'affaires, comparé aux données pro forma 2020 ou aux données publiées. Cette amélioration de la rentabilité opérationnelle courante, elle est portée par l'amélioration de l'EBE, là aussi en valeur et en poids du chiffre d'affaires, et également de la marge brute d'autofinancement, donc, c'est-à-dire la traduction cash de l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation. Et au final, le groupe extériorise un résultat net sur l'exercice 2021 de 13,9 millions d'euros, soit 8,5% de son chiffre d'affaires en nette progression par rapport à l'exercice 2020. Troisième élément fort du groupe, troisième force du groupe, sa situation financière. L'endettement financier net du groupe est maintenu à moins de 15 millions d'euros et elle, à la fin de l'année 2021, sa trésorerie active, donc ses liquidités, s'élevait à 97 millions d'euros. Ses capitaux propres sont renforcés, elle a un gearing tout à fait satisfaisant. Et cette situation financière est au service de son modèle, de sa stratégie, son modèle de croissance, qui, je le rappelle, est basé à la fois sur de la croissance organique et de la croissance externe. La croissance organique, c'est l'investissement dans l'innovation et le groupe a encore cette année maintenu son niveau d'investissement en recherche et développement, 11 millions d'euros de dépenses R&D qui ont été capitalisées au bilan cette année, l'autre pilier qui est la croissance externe. Donc cette année, le groupe a continué sa stratégie, continue à analyser et à travailler sur un certain nombre de cibles et à réaliser, à concrétiser en fait les éléments du rachat de l'activité télémètre de l'opérateur Saab en Suède qui va contribuer aux résultats du groupe à partir de l'exercice 2022 sur le premier semestre puisque le closing doit intervenir sur ce semestre 2022. En termes chiffres clés, sur le slide suivant, vous retrouvez ce que je viens de vous énoncer. Je ne vais pas paraphraser le tableau, je vais simplement repréciser quelques éléments. Un chiffre d'affaires donc en croissance, c'est une croissance qui est rentable. On retrouve une amélioration de la marge brute, j'aurai l'occasion de la détailler plus avant. Donc une marge brute qui progresse en données pro forma de 15,6 millions d'euros. Un excédent brut d'exploitation qui s'élève à 32,6 millions d'euros. 20,1% du chiffre d'affaires, donc le groupe est dans la lignée de son plan stratégique, poursuit, développe son plan. Des charges opérationnelles qui restent maîtrisées, on aura l'occasion d'en reparler. Le résultat opérationnel courant du groupe, donc comme je vous le disais en introduction, s'établit à 19,8 millions d'euros, à 12,2% du chiffre d'affaires et en progression de 4,2 millions d'euros en données pro forma. En termes cash, tableau de flux, il nous a paru important de repréciser que le groupe améliore significativement sa marge brute d'autofinancement de 15,4 millions d'euros et que cette augmentation de sa marge brute d'autofinancement est plus importante que l'augmentation de ses capex, qui montre sa capacité à autofinancer ses, ses investissements. Et un endettement financier net qui reste très tout à fait maîtrisé, très bas, à 15 millions d'euros. Pour comprendre plus en détail l'évolution de la rentabilité courante du groupe, je vous propose le slide suivant, d'analyser le slide suivant, où l'on comprend en fait l'évolution, on comprend mieux l'évolution de la rentabilité opérationnelle courante. Elle est portée d'une part par une augmentation de la marge brute sensible. Cette progression, elle a trois raisons. D'une part, une progression naturelle de l'activité, plus de chiffre d'affaires dit plus de marge à taux constant. Une amélioration du taux de marge qui est liée au mix des divisions, au mix des activités au sein des divisions, donc des différentes lignes de produits qui ont été commercialisées, également à l'effet des synergies qui ont été déployées principalement sur la division médicale. Et troisième élément dans l'augmentation de cette marge brute, là un effet plus on va dire comptable, d'alignement de méthodes des calculs de la marge brute et des coûts des produits vendus entre les périmètres Elex et Cantel Médical, donc un alignement d'Elex sur les méthodes groupe, qui a induit un reclassement de l'ordre de 2,1 millions d'euros entre cette ligne et la charge de personnel. Donc c'est un reclassement sans impact sur le BE, sur l'Europe, mais qui a un impact sur la marge brute. Deuxième élément dans l'évolution du ROC, donc on a une progression de la marge brute, elle est partiellement balancée par une augmentation des charges de personnel. J'en avais déjà parlé au 30 juin. Cette augmentation des charges de personnel, elle est portée par l'effort de structuration des équipes d'encadrement au plus haut niveau de l'organisation, mais également à des niveaux plus intermédiaires pour porter et supporter la forte croissance du groupe, le renforcement des équipes commerciales également et qui ont porté leurs fruits. L'effort également sur les activités de R&D et de production. Les R&D pour soutenir l'innovation et les croissances futures et la production pour soutenir une production très forte cette année. À cela s'ajoute évidemment le point que j'ai signalé sur la marge brute, donc qui correspond à l'alignement du calcul des COGS sur le médical. C'est le premier point qui balance l'augmentation de la marge brute. Le deuxième point concerne les charges externes qui progressent de 1,2 million d'euros, ce qui est une progression tout à fait modérée au regard de la forte croissance de l'activité. Donc des charges externes qui restent sous contrôle, y compris après une année 2020 Covid assez significativement impactante sur les charges externes. Voilà pour l'Europe, je dirais pour l'ensemble du groupe. Le slide suivant vous présente la répartition ou l'évolution du ROC par division. On retrouve sur chacune des divisions ces mêmes éléments, augmentation de la marge, donc progression de la marge, évolution des charges de personnel et des charges externes à des degrés divers en fonction des divisions, l'amélioration de la marge brute et beaucoup plus sensible sur l'activité médicale qui a bénéficié des effets positifs des synergies. Et sur l'augmentation des charges de personnel, la division médicale est plus impactée par l'évolution sur les équipes commerciales et dans une moindre mesure R&D, alors que sur la division photonique, cette augmentation est plus portée sur les activités de production, de R&D et de structuration du groupe. Voilà pour, je dirais, une analyse de la rentabilité opérationnelle courante. Entre cet agrégat, donc le ROC et le résultat net, peu d'éléments. Entre le ROC et l'euro, on retrouve des dépenses qui, par essence, sont assez significatives et par nature peu récurrentes. Cette année, nous en avons assez peu et ça concerne essentiellement pour 500 000 euros les coûts directs liés aux opérations de croissance externe réalisées ou en cours. S'agissant du résultat financier, en données publiées, le groupe maintient son résultat financier donc à moins 1,5 million d'euros. Le gain net de change sur les opérations financières étant venu contrebalancer l'effet de la hausse du coût d'endettement financier net lui-même porté par le niveau de l'endettement et une légère augmentation du taux annualisé de la dette. En termes de bilanciel maintenant, je vous indique simplement la photographie du bilan qui vient étayer, enfin qui illustre la solidité de la situation financière du groupe. Donc des capitaux propres à 181,3 millions d'euros qui représentent plus de 50% du total bilan et une dette financière nette donc à 14,9 millions d'euros avec une liquidité à fin d'année qui s'élève à 97 millions d'euros. Oh, j'ai oublié, sur la partie synergie, excusez-moi, un petit focus qui a été fait donc sur les synergies du médical et je vais laisser la parole à Jean-Marc pour détailler ce point.
Merci. Oui, en effet, on parle depuis deux ans des synergies, la mise en œuvre de ces synergies-là. Il était important pour nous juste de vous les repréciser comme ça. Alors, on parle beaucoup des synergies Elex, mais il y a aussi des synergies Optotech, l'acquisition 2019 et ensuite Elex 2020. Donc, je les ai résumées en quatre gros pôles. Les synergies commerciales, pour rappeler qu'aujourd'hui, les unités des forces de vente, on a aujourd'hui toutes vendent la totalité, ont été réunies et vendent la totalité du portefeuille produit. Les réseaux de distribution, pareil, on a rationalisé tout ça et puis bien sûr rationalisé le management. Derrière ça aussi, vous voyez que la rationalisation des gammes, elle est en cours. C'est des processus qui sont un petit peu plus longs. Il était important pour nous, on est dans un environnement énormément réglementé. Donc, on a lancé tout ça et ça interviendra un petit peu par la suite. La mise en œuvre du branding Lumibird Medical, donc ça c'est aussi un élément important. Hein. Donc aujourd'hui, Lumibird Medical regroupe bien les trois noms Elex, Cantel et Optotech. Intimement, on a la rationalisation des présences congrès. On a plus de 3 stands, on n'en a plus qu'un. Et puis derrière, la rationalisation des équipes marketing aussi, avec des pôles marketing qui sont centralisés. Derrière ça, l'unité des équipes de projet R&D, donc là, une seule équipe hein, qui, bien sûr, travaille sur les trois sites que sont Adélaïde, la Slovénie, Ljubljana et Clermont-Ferrand, mais elles sont dirigées dans le même sens, par la même personne, pour pouvoir rationaliser et surtout, en anglais on dirait leverage, mais utiliser vraiment chacun des potentiels de ces équipes R&D. On a en cours une approche globale des achats. On achète plus des mêmes composants. Donc, il est intéressant que ce soit au niveau du médical, d'ailleurs au niveau du groupe, hein, d'avoir une approche plus globale des achats. Et puis, la verticalisation des composants clés, pareil, c'est en cours. Il y a des choses qui ont déjà été faites, mais il reste encore beaucoup de chemin. Il reste en tous les cas du chemin à parcourir. Donc, tout ça sont source d'espoir pour l'avenir. Et puis, dernièrement, les synergies opérationnelles et financières, on avait des entités en doublon. On avait des filiales qui n'étaient pas performantes. On les a fermés. On est en train de travailler sur l'optimisation fiscale et sur la rationalisation des équipes support et le développement d'un ERP commun. Donc, depuis maintenant 18 mois, les synergies médicales ont été mises en œuvre comme prévu. Rien n'est décalé par rapport à ce qu'on imaginait. Et vous avez vu, suite à la présentation de Aude, les premiers effets sonnant trébuchant dans notre performance, l'amélioration de notre marge brute et dans notre BE. Aude, je te repasse la balle.
Merci Jean-Marc. Donc, j'étais allée un petit peu vite et j'étais déjà au niveau du bilan. Donc, cette photographie, comme je vous l'indiquais, pour insister sur la solidité de la situation financière, capitaux propres, dette financière, un ratio tout à fait intéressant. Je terminerai par deux slides concernant la génération de cash et le tableau de flux. Sur l'exercice, le groupe dégage un excédent de trésorerie, une génération positive de cash de 16,1 millions d'euros, qui est portée d'une part par la génération de cash liée à ses opérations. C'est une progression du cash flow opérationnel à 26,6 millions d'euros sur l'année 2021 contre 13,1 millions d'euros en 2020. Cet agrégat intègre une variation du BFR négatif de moins 8,8 millions d'euros qui est principalement liée à l'augmentation du niveau de stock du groupe. Niveau de stock qui s'explique par deux raisons. D'une part, la sécurisation des approvisionnements dans le cadre d'un contexte compliqué sur ces thématiques que vous n'ignorez pas, et également compte tenu d'un très fort niveau d'activité, notamment en fin d'année, la nécessité d'approvisionner pour produire et délivrer. Les cash flows opérationnels balance les cash flows liés au CAPEX. Donc, sur l'année, le groupe a dépensé 28,6 millions d'euros au titre de ces CAPEX. Je vous ai indiqué sur la partie droite du slide les différentes thématiques. Donc, il y a 10,7 millions d'euros qui sont liés aux frais de développement. J'en ai parlé en introduction. C'est plus de 50% du total. Également, les effets, enfin, l'encaissement net lié à l'immobilier de Cournon, puisque le nouveau bâtiment a été investi et est maintenant totalement opérationnel, et l'ancien bâtiment a été vendu. S'ajoute à cela également l'acquisition d'un avion privé pour le transport des collaborateurs sur les différents sites européens. En matière de financement, donc le groupe a continué à déployer sa stratégie qui consiste à aligner les sources de financement avec la maturité des investissements qu'elle réalise, et notamment elle a tiré deux lignes BPI pour un montant total de 10 millions d'euros avec une maturité longue venant financer ses investissements dans l'innovation. Elle a également mis en place des dettes adossées à des investissements spécifiques, là aussi alignés en termes de maturité sur la durée d'utilisation des actifs concernés. Et elle a également gardé intacte sa capacité à mobiliser des fonds pour ses opérations de croissance externe. Nous avons tiré, comme c'était prévu, les 22,5 millions d'euros de la dette obligataire, donc la ligne qui nous restait à tirer. Et il reste encore, le groupe a encore la capacité à mobiliser, au titre de la dette d'acquisition qu'elle a mis en place l'année dernière, 82,5 millions d'euros. Donc, fort de sa trésorerie de fin de période et de ses capacités de mobilisation pour des opérations futures, le groupe considère que sa situation financière est parfaitement adaptée à sa stratégie de croissance. Le dernier slide de la présentation financière vous présente cela. Vous pouvez vous retrouver sur le graphe finalement le tableau de flux présenté d'une façon plus graphique et plus visuelle, mais c'est, vous retrouvez exactement les mêmes éléments. On vous indique également le gearing du groupe, les ratios de levier et de couverture qui sont attachés à sa dette d'acquisition, donc où le groupe que le groupe respecte, donc il n'y a pas de problématique particulière de ce point de vue-là, et surtout un plan d'amortissement de la dette, donc qui est parfaitement soutenable pour le groupe au regard de sa stratégie et surtout de sa capacité à générer chaque année par ses opérations une trésorerie excédentaire. Voilà, j'en ai fini sur la partie financière et je vais passer la parole à Marc pour la suite de la présentation.
Oui, merci Aude. Voilà, donc parlons donc des perspectives, donc et en commençant donc par cette année, donc l'exercice donc 2022. Malgré en fait donc un environnement qui reste compliqué, donc avec une crise Covid qui n'est pas finie, donc des difficultés d'approvisionnement donc qui sont toujours présentes, donc et une situation géopolitique donc qui reste très complexe. Donc, nous maintenons en fait donc notre vision donc de croissance organique donc pour cet exercice donc 2022 pour plusieurs raisons, mais une très bonne raison donc celle donc du carnet de commandes donc qui en fin d'année 2021 donc était vraiment très élevé donc sur toutes les divisions donc de notre donc de Ladybird. Et surtout sur tous ces segments. Donc une très bonne activité commerciale donc en 2021 donc qui s'est poursuivie d'ailleurs donc sur le premier trimestre donc qui nous permet en fait donc d'avoir cette vision donc de croissance donc sur l'exercice. Alors bon, il suffit pas d'avoir les commandes, il faut également être capable de les produire. Enfin bon, pour rappel donc nous avions quand même donc, largement anticipé en fait donc les difficultés d'approvisionnement l'an dernier, donc bon, ça se voit d'ailleurs dans les chiffres donc en 2021 avec l'accroissement des stocks. Bon, enfin nous avions continué de travailler donc en fin d'année 2021 donc donc avons poursuivi en fait notre effort donc sur ce premier trimestre. Nous restons évidemment donc extrêmement vigilants en fait donc sur tout ce qui est rupture d'appro. Donc bon là c'est vrai que les certains approvisionnements donc notamment en électronique et de plus en plus en mécanique sont complexes. Bon néanmoins donc encore une fois donc, nous avons pris les devants. Bon nous avons allongé en fait donc les délais de livraison donc dans certains cas, mais ça n'est pas problématique donc pour nos clients. Bon, enfin tout ça permet donc d'être extrêmement confiants en notre capacité donc à produire donc notre backlog. L'autre point donc important pour cette année en fait donc concerne donc la rentabilité. Donc bon, de 2021 donc nous a permis en fait donc de passer la barre des 20%. Donc nous continuons en fait donc notre progression sur la rentabilité avec notamment donc un effort poussé en fait donc sur tout ce qui est politique d'achat. Comme pour mémoire en fait donc nous avons en fait donc l'an dernier en fait donc mis en place en fait donc une nouvelle équipe donc achat qui s'est déployée donc et qui commence donc vraiment donc à trouver ses marques si on peut dire donc et à produire donc les résultats en fait donc sur cette année. Alors certes donc bon il y a sur certaines appros une difficulté à maintenir les prix et quelquefois donc il y a des hausses, enfin bon, ceci étant donc nous sommes également capables de répercuter en fait donc sur certaines références donc certains produits en fait donc là aussi nos clients. Autre point bon, significatif donc pour 2022 donc une augmentation des investissements donc en R&D. Notre volonté est continuer donc d'être au-devant de la scène donc sur le plan technologique et c'est vrai enfin que ce soit sur le médical avec vraiment de nouveaux produits donc qui sortiront en fait donc en cours d'année donc et l'année prochaine donc mais également donc sur toutes les activités photoniques donc et lidar donc avec vraiment des produits extrêmement innovants donc ça va nous permettre donc de renforcer en fait donc notre position en fait sur nos marchés donc à l'avenir. Et puis également un investissement donc sur la partie responsabilité sociale de l'entreprise donc je vais vous faire un petit focus donc puisqu'en fait nous n'avions pas parlé énormément jusqu'à présent. Bon, en 2021 donc nous avons en fait donc nommé un directeur donc RSE Frédéric Chiquet. Pour vraiment faire émerger en fait donc ces efforts donc de responsabilité sociale d'entreprise donc directement rattaché au PDG. Donc ça nous a permis en fait donc l'an dernier déjà de mettre en place une feuille de route pour visualiser en fait donc une labellisation d'ici 30 mois. Donc nous avons aujourd'hui des indicateurs donc un tableau de bord donc un suivi avec un comité exécutif donc et une charte RSE donc en place donc autour de 12 engagements. Donc sur les perspectives 2022 donc nous publierons en fait donc nos engagements RSE. Nous travaillons en fait sur les processus sur un processus donc RSE donc avec un suivi donc d'amélioration continue associée. Donc ça va avec donc des reportings enfin, qui peuvent être un petit peu complexes donc dans la mesure où le groupe donc a été étendu un petit peu partout et déployé dans nombreuses zones géographiques bon tout ça en fait donc bon pour avoir donc poursuivre en fait notre progression donc la mesurer donc être capable évidemment donc de justifier nos efforts. Donc un aspect particulier donc aussi sur tout ce qui concerne donc le bilan carbone, donc compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui donc sur l'environnement, donc évidemment ça reste donc une de nos préoccupations. Donc vous avez enfin sur le graphe donc une évolution en fait donc de la note ESG donc Gaïa donc sur jusqu'en 2021, donc évidemment notre objectif donc est de la faire progresser. Alors sur 2023, donc c'est une publication que vous connaissez sans doute maintenant donc très bien, donc c'est rassurant de pouvoir vous proposer, vous présenter toujours les mêmes chiffres, donc ça veut dire que nous sommes évidemment confiants sur donc les objectifs de croissance, donc de chiffre d'affaires et de rentabilité, donc la croissance organique de 8 à 10% par an, et une croissance externe donc sur les marchés enfin médicaux, défense et lidar, donc tout ça pour arriver à un chiffre d'affaires un minimum de 250 millions d'euros donc en 2023 et une rentabilité donc chiffrant un EBITDA donc qui sera dans la fourchette donc de 20 à 25, sachant que nous avons passé en fait donc la barre des 20 donc l'an dernier. Alors donc sur le doublement du chiffre d'affaires, donc deux contributions, donc la contribution organique et la contribution externe. Donc nous avons la chance donc d'avoir une activité qui est diversifiée, mais qui est très dynamique en fait finalement en fait sur les marchés que nous adressons. Donc nous avons en fait donc on a la chance finalement donc d'être dans des marchés encore qui ne sont pas en fait matures, donc c'est lequel il n'y a pas en fait donc de concurrents majeurs qui nous barrent la route. Donc le fait que l'entreprise soit aujourd'hui une taille intermédiaire donc nous donne donc à la fois les moyens financiers en fait donc de notre croissance, mais donc également en fait donc nous permet de garder en fait cette agilité donc essentielle en fait donc pour continuer à progresser en fait donc sur nos ventes et sur nos prises de marché. Et ça c'est vrai sur le médical, la photonique et le lidar. Sur le lidar donc particulièrement avec les marchés en fait de l'ADAS. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, donc mais 2021 a vu notre activité en fait se consolider en fait donc sur la DAS, donc avec la qualification donc de certains produits, donc même si ça a été effectivement décalé, ça reste donc pour nous un levier de croissance donc important. Je sais que c'est pour certains d'entre vous important. Sur la partie croissance externe, nous avons plusieurs dossiers toujours à l'étude. Déjà pour rappel, donc le dossier en fait donc de SAB, donc sur l'activité de télémétrie donc en Suède, donc qui est vraiment une très très belle activité de défense, donc qui consolide notre présence en fait donc sur la défense avec des clients importants donc en France. Donc cette activité devrait en fait donc on doit arriver à ce closing donc dans les semaines à venir, donc c'est déjà donc quelque chose de donc un projet donc extrêmement concret donc qui va donc tomber dans le giron de l'Unibird, donc et d'autres dossiers donc sont en cours, donc je pense que vous aurez des questions sur le sujet, mais qui concernent donc la partie médicale, donc sur essentiellement l'achat de technologies clés en lien avec notre activité ophtalmologique, donc quand même un focus important en fait donc sur l'activité ophtalmique, ce qui ne nous empêche pas quand même d'aller regarder un petit peu en dehors donc de l'ophtalmo. Et sur la partie défense, là il y a quelques sujets donc intéressants, c'est essentiellement en fait donc pour nous faire grossir en fait notre activité, avoir de la masse critique, sachant que défense, j'irais peut-être malheureusement, aujourd'hui est à l'ordre du jour. Mais bon, enfin, le spatial l'est aussi, et bon, c'est là où, pour le coup, c'est de la communication spatiale, donc en lien avec tout le déploiement, en fait, donc de constellation de satellites, donc qui est extrêmement actif aujourd'hui. Sur la partie LIDAR, donc ce sera essentiellement, en fait, donc l'achat de briques technologiques, enfin, qui nous manque aujourd'hui. Concernant donc l'amélioration de la rentabilité. Bon, j'en ai déjà donc un petit peu parlé sur les achats, donc bon, qui vont continuer de progresser. On travaille donc sur la rationalisation donc des fournisseurs, mais également donc quelquefois également donc sur le changement de certains fournisseurs. Donc souvent nous avons été trop souvent, en fait, donc ça c'est lié un petit peu à l'historique, lié à des fournisseurs clés, avec une criticité, donc le fait donc de diversifier, en fait, donc notre fournisseur, au moins d'avoir donc deux fournisseurs, tout en rationalisant. Donc il ne s'agit pas de multiplier les fournisseurs, il s'agit, en fait, donc d'avoir une alternative, donc et de concentrer, en fait, notre demande sur bon les fournisseurs qui nous paraissaient plus sérieux. Donc tout ça, en fait, donc devrait nous permettre donc d'améliorer, en fait, donc nos achats. Et également un point important, c'est donc la vision que nous avons donc sur notre activité, notre backlog nous permet aujourd'hui de nous projeter donc et de mieux acheter, en fait, puisqu'on est capable d'acheter donc sur des volumes plus importants, donc compte tenu de la visibilité qu'on a sur notre activité. Sur la partie aussi logistique, donc qui est génératrice, en fait, donc souvent de coûts, l'importance donc de bien la maîtriser, donc avec le schéma donc d'approvisionnement, donc de production et de distribution. Donc comment donc faisons-nous ça? Donc déjà donc avec une équipe donc plus spécialisée, en fait, sur ces domaines donc de logistique, donc et qui opère, en fait, donc sur l'ensemble du groupe, de façon à avoir, en fait, une vision globale, donc une action, en fait, donc qui soit efficace donc sur l'ensemble des activités. Donc bon, je ne vais pas le détailler tout de suite ici, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc une structure structure légale, en fait, du groupe, qui nous permet, en fait, donc de livrer donc proche de nos clients, et de fabriquer sur quelques centres de production, dont on souhaite évidemment minimiser le nombre, donc avec donc un environnement donc de producteurs et de fournisseurs donc qui sont pas trop loin. Donc tout ça permet, en fait, d'améliorer, en fait, donc les circuits de distribution vers le client, et d'améliorer, en fait, la fabrication, la rapidité, en fait, donc d'approvisionnement sur les sites de production. Ensuite, un gros effort est mené, en fait, sur tout ce qui est fonction support, les fonctions d'internet, finance, RH, sont aujourd'hui des ressources partagées sur l'ensemble du groupe, avec des correspondants locaux, si on peut dire, mais en tout cas pareil, la politique des fonctions support est harmonisée, en fait, sur l'ensemble des activités du groupe, ce qui permet, en fait, d'avoir une meilleure efficacité, éviter des duplications, en fait. Nous sortons progressivement, et ça prend du temps, de ce modèle de silo, avec plusieurs petites entreprises qui sont les unes à côté des autres, un vrai modèle intégré, notamment par le bien, en fait, de ces fonctions support. Le dernier point, en fait, sur la rentabilité, la verticalisation, le nombre de plateformes, on cherche évidemment à faire du standard le plus possible, et tout ce qui, en fait, custom donc doit être une variation en fait donc d'un standard d'un référentiel standard et un gros effort en fait donc sur l'internalisation en fait donc de composants donc et l'internalisation en fait de technologies qui nous permettent donc de fabriquer des sous-ensembles donc et là aussi d'être relativement donc serein en fait sur les aspects de l'approvisionnement. Donc voilà donc pour bon, les points principaux donc pour résumer donc bon, sur 2021 donc bon pour nous un bel exercice donc sur le bon, pour l'univers à la fois en chiffre d'affaires donc en rentabilité mais également donc en progression en fait donc sur la structuration en fait du groupe ça c'est important en fait donc pour la suite donc ce modèle donc d'intégration donc de plateforme d'intégration donc pour nous est essentiel en fait donc pour la suite des opérations nous avons en fait donc une ambition très forte donc en fait donc pour faire grossir ce groupe et nous savons que sans avoir en fait donc la structure adéquate donc avec bon des gens qui sont solides donc sur les postes clés donc bon, c'est toujours extrêmement risqué. Donc nous confirmons donc notre optimisme donc sur les perspectives de croissance et de rentabilité à venir. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie donc de votre attention et je vais vous laisser la parole pour les questions.
Nous allons en ce moment commencer la session questions-réponses. Afin de pouvoir poser une question, veuillez connecter par téléphone et composer asterisque suivi par 1 sur votre appareil téléphonique. Si vous changez d'avis et vous voulez sortir votre nom de la liste des questions, veuillez appuyer sur asterisque et 2. Toute personne voulant poser une question peut composer asterisque suivi par 1 en ce moment. Nous n'avons pas de questions téléphoniques. Je passe à lire les questions écrites. La première question vient depuis M. Guy Michel. Bonjour, comment analysez-vous les événements en Ukraine et les conséquences sur le carnet de commandes de Lumibird? Pour votre activité LIDAR, la montée en puissance de la production sera-t-elle respectée et sentez-vous une reprise forte de la demande?
Alors sur la première partie, donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires que nous, le risque, je parle de risque simplement, hein, sur l'année 2022, pour le groupe est inférieur à 2% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà pour vous donner une échelle et le groupe n'a pas de fournisseur impactant sur la Russie, sur l'Ukraine ou sur les pays satellites. Donc à l'instant T, pour nous, pour le groupe Lumibird, pas d'impact autre que ce risque de 2% sur le chiffre d'affaires. Et là, je vais laisser la parole à Marc pour les lidars.
Oui, alors sur la partie lidar, donc peut-être deux réponses. Donc bon, déjà sur le segment en fait donc de l'ADAS, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure en fait donc 2021 donc nous a remis le pied à l'étrier en fait donc sur la production en fait donc de nos lasers low cost donc pour de la qualification auprès de quelques clients donc clés donc clients américains donc qui travaillent donc en collaboration avec des équipementiers et des fabricants donc automobiles. Donc je dirais que là bon, enfin c'est en conformité avec donc la vision que nous avions en fait donc sur l'intérêt en fait donc de ce marché là, et des perspectives de croissance que nous avons même si donc bon, clairement donc le marché en fait donc a shifté donc les clients donc ont repoussé hein, donc leur demande donc en fait donc de volume donc ils ne sont pas prêts donc pour vraiment enfin, plusieurs raisons mais bon c'est enfin pour nous ça ne remet absolument pas en cause en fait donc l'intérêt en fait donc de ce marché là donc nous savons en fait que ça viendra donc dans les mois à venir nous sommes toujours extrêmement actifs donc sur la qualification en fait donc de ces lasers low cost donc pour équiper en fait donc les véhicules autonomes. Donc la deuxième partie de réponse donc sur les lidars donc concerne plus donc les systèmes donc lidars donc puisque nous fabriquons également en fait donc des systèmes donc complets donc pour mesurer en fait donc le vent pour, donc détecter donc la pollution Également en fait donc pour détecter des obstacles donc sur de très très grandes distances, donc assez différent en fait donc des systèmes ADAS. Donc là en fait donc nous sommes en fait sur des systèmes très haut de gamme. Donc bon, cette activité qui est née d'une part en fait de SenseUp, donc de l'activité SenseUp donc en France, et de l'activité canadienne donc et anglaise donc avec Allo Photonique. Donc on poursuit son développement donc et là aussi donc nous attendons en fait donc une belle croissance en fait donc sur cette gamme donc de produits avec trois marques. Donc la marque Opal donc qui est en fait donc le lidar en fait donc 3D très longue distance donc très haut de gamme. Donc la marque Allo Photonique donc qui est le lidar vent donc émetteur de polluants, détection de feu également, et puis la marque SenseUp donc qui est plus donc sur de la télémétrie, mais de la télémétrie terrestre et pas de la télémétrie aéroportée. Je fais cette référence parce que la télémétrie aéroportée en fait donc celle en fait que nous récupérons donc notamment donc des activités de SAB.
Merci. La prochaine question vient depuis le téléphone et vient depuis Monsieur Jérémy Salé depuis Pot-Saint-Parc, BNP Paribas. Vous avez la parole.
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai plusieurs questions. Je voulais savoir tout d'abord si vous pouvez nous donner des indications sur le carnet de commandes. Vous parlez d'un très bon niveau, voilà, si on pouvait avoir un mythe la progression en pourcentage. Ma deuxième question concerne les leviers d'amélioration pour atteindre l'objectif de 25% d'EBITDA par division. Enfin, si on regarde l'historique, on voit que le pôle photonique en termes d'EBITDA est assez stable depuis 2018, alors qu'on a une grosse progression sur le médical. Est-ce qu'il y a encore du levier dans le médical ou est-ce que le plus gros va désormais venir de la photonique? Et enfin, je voulais savoir quels étaient les niveaux de CAPEX que vous attendez sur 2022, étant donné que vous anticipez une hausse de la R&D. Merci.
Donc moi, la première réponse, bonjour Jérémy, la première réponse, c'est concernant le carnet de commandes. Alors, on ne communique pas sur le chiffre exact de notre carnet de commandes, mais on a fini déjà l'année 2000. Alors, sur la photonique, on a fini l'année avec un très joli carnet de commandes par rapport à notre budget 2022. Donc là, maintenant, le challenge, c'est, comme Marc l'a précisé, c'est de produire et de facturer nos clients. Et sur le médical, vous savez que les compteurs sont remis à jour chaque fois qu'on commence au 1er janvier, puisque nous vendons de l'équipement et une part consommable relativement faible pour l'instant. Mais nous avons démarré l'année avec un vrai backlog qui se chiffrait en semaine. Et donc ça fait que le début d'année, on travaille abondamment à rentrer d'autres commandes aussi. Donc notre challenge pour nous, c'est d'épurer le backlog et de servir les commandes qui tombent aujourd'hui. On a donc automatiquement allongé un petit peu le délai d'approvisionnement des médecins demandeurs. Donc le carnet de commandes, encore une fois, est très satisfaisant au regard du budget à réaliser en 2022. Pas plus de chiffres pour l'instant parce que c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre sur le chiffre exact. Mais des voyants qui sont au vert pour le monde, au vert pour la nature du carnet de commandes, et avec, comme d'habitude, le challenge de produire dans les temps. Donc ça, c'est le premier point. Et sur la deuxième partie de votre question, je vais laisser Marc répondre.
Oui, sur les leviers de rentabilité. Donc, c'est vrai que sur 2021, donc, le médical donc, a fortement progressé. C'est expliqué clairement donc, par les synergies, en fait. Donc, la mise en place donc, des synergies. Donc notamment commerciales donc qui ont été faites sur le médical qui ont permis en fait donc d'avoir cette augmentation de rentabilité. Donc sur la photonique donc ça a progressé un petit peu pas autant. Donc néanmoins donc beaucoup de leviers sont encore à activer en fait. C'est pour ça que j'insistais en fait donc sur la structure du groupe. Donc un des leviers donc et c'est vraiment en fait donc c'est la poursuite de cette intégration en fait beaucoup en fait donc de gains donc sont à réaliser en fait donc avec un vrai modèle intégré. Donc nous n'avons pas en fait donc fini notre effort, donc même si le modèle donc aujourd'hui est très clair, donc sur papier si on peut dire, mais bon, il y a quand même beaucoup de travail à faire, donc il s'agit en fait donc de faire avec les équipes, donc les hommes, donc certains doivent changer de position, changer de service, donc on rationalise donc là où on peut en fait donc pour augmenter l'efficacité. Et puis bon, il y a bon, les achats, donc j'en ai parlé, la supply chain, donc la verticalisation, tout ça en fait donc prend du temps, mais ça va nous permettre effectivement de poursuivre en fait notre progression donc sur la rentabilité. Et le point aussi important, c'est la masse critique en fait, le volume en fait donc que nous avons aujourd'hui en fait donc nous aide aussi donc à mieux à mieux acheter, donc également à mieux vendre, donc et à maintenir en fait des prix en fait donc qui sont bien, donc parce qu'en fait donc la concurrence donc est un petit peu derrière nous aujourd'hui en fait sur pas mal de segments de marché. Alors sur les CAPEX, donc je vais laisser la parole à Aoud.
Merci. Donc sur le niveau de CAPEX 2022, il est attendu à un peu moins de 30 millions d'euros. Alors il y a toujours des frais de développement et ça évidemment, donc de toute façon de l'ordre d'une dizaine de 2 millions d'euros. Mais ce qui est important de voir surtout l'année prochaine, c'est des investissements dans l'extension du site de Lannion et sur également, l'année prochaine, c'est cette année, en fait 2022, et également l'aménagement et les installations du site de Göteborg pour accueillir les activités télémètres de SAB, donc qu'on va récupérer incessamment sous peu. Donc ce niveau d'investissement, il est, j'avais envie de dire, presque plus porté par ces éléments-là que par le niveau d'investissement en R&D. En revanche, ce que je souhaite préciser, c'est que ces investissements-là sont d'ores et déjà financés. Voilà.
J'ai une question complémentaire sur l'extension du site de Lannion. On parle d'extension de production pour quel domaine?
Alors, je repasse la parole à Marc.
Oui. Alors, bon, sur pas mal de domaines, donc la DAS, on est un. Donc, le spatial, le médical, donc puisqu'en fait nous fabriquons également les cavités laser en fait donc pour l'activité médicale, donc au moins ces trois là en fait donc sont assez clairs en fait donc sur en termes de besoins de mètres carrés supplémentaires, d'équipements supplémentaires et de personnel supplémentaire.
C'était très clair, merci beaucoup.
Nous passons à nouveau à questions écrites. La prochaine question provient de Monsieur Laurent Gelébar depuis BNP, Exane BNP Paribas. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi le deal Silas ne se retrouve pas dans votre tableau de flux?
Alors, le deal Silas se retrouve bien dans notre tableau de flux, je vous rassure. Après, là, c'est l'application des normes de consolidation. On a acquis 37% du capital de Silas avec un seul autre actionnaire, donc forcément majoritaire. Et l'analyse des conditions dans lesquelles on pouvait ou pas exercer une influence, et notamment influence notable au sens des normes, a démontré que nous n'étions pas, avec ces 37%, en capacité d'exercer une influence notable. Donc la société Silas n'est pas entrée dans le périmètre de consolidation. Et de fait, le décaissement correspondant ne se retrouve pas sur la ligne croissance externe, mais investissement financier, activité de portefeuille. Donc dans la ligne investissement financier, moins 8,3 millions d'euros, et je pense que je réponds à une autre question que j'ai vue dans la liste des questions écrites, sur ces moins 8,3 millions d'euros, il y a principalement l'acquisition Silas. Voilà. J'espère avoir répondu complètement à la question.
Merci. La prochaine question provient encore de M. Gelébar. Impact positif à attendre sur votre business militaire étant donné l'environnement actuel?
Ah, donc, bon. Bon, déjà, un indicateur, c'est la vente de Rafale. Puisqu'en fait, pas mal d'équipements que nous fabriquons équipent le Rafale. C'est vrai pour les lasers qui sont présents en fait dans les nacelles d'observation en fait de cet avion, mais également en fait les télémètres sont fabriqués en fait en Suède, dont nous allons en fait avoir le plaisir de gérer l'activité à partir d'avril mai. Après, sur d'autres activités de défense, notamment sur tout ce qui concerne en fait les systèmes d'observation, les télémètres de la gamme de Sensoc, pour les fantassins, ou pour les systèmes de vision, y compris en fait la gamme Opal au Canada en fait peuvent effectivement bénéficier en fait de la nécessité en fait de renforcer en fait sur le secteur de la défense.
Merci. Nous avons encore une question depuis Monsieur Geleba. Pour ne pas revoir à la hausse le bas de votre fourchette de marge d'EBITDA dans la mesure où vous êtes déjà à 20%? Quel est le montant de la dépense totale de R&D et en 2021, capitalisée et expensée? Merci.
Alors, le montant de la dépense totale de R&D, donc brute, sans tenir compte de financement de type CIR, c'est un peu plus de 16 millions d'euros, 16,4 millions d'euros, et le montant capitalisé, c'est 10,7 millions d'euros.
Et pour répondre à la question précédente, en fait, pour la marge d'EBITDA, l'idée dans notre objectif, en fait, c'est de rester serein aussi sur par rapport aux opérations que nous pouvons réaliser. En fait, et qui, comme on l'a pu le voir, en fait, nous apportent en fait de la croissance de rentabilité, mais peuvent l'année où on les réalise avoir un impact en fait ponctuel sur notre rentabilité. Donc, l'objectif étant pour 2023, les choses se clarifieront avec l'avancée dans le temps. Mais voilà, donc on préfère rester prudent pour donner une bonne idée de là où nous allons.
Nous avons une autre question depuis M. Paul Manigaud de Amiral Gestion. Bonjour, peut-on avoir un update sur Silas?
Nous sommes aujourd'hui actionnaires minoritaires à 37%, le consortium MBDA Safran est rentré en négociation exclusive avec Ariane Group pour acquérir les 63%. Nous intéresse également ceci étant aujourd'hui une exclusivité est donnée au consortium concurrent. Compte tenu des échéances électorales là aussi ça a été le timing a été fortement impacté beaucoup de choses peuvent encore se passer la conclusion de cette affaire. Nous restons en fait vigilants en fait sur le dossier. C'est un dossier qui nous intéresse. On verra comment les choses se passent, mais pas d'éléments très significatifs à annoncer si vous l'auriez vu dans la presse, mais il n'y a pas d'information plus que ce qui a été présenté dans la presse ces semaines dernières.
La prochaine question provient depuis Monsieur Christophe Deschamps depuis Chaussée Gestion. Vous attendez une hausse de la rentabilité. Doit-on s'attendre également à une hausse de votre taux de marge brute?
La marge brute est déjà assez confortable, puisque nous sommes au-delà de 62%. Sur certains produits, il y a encore une marge de progression. Et c'est évidemment donc pour nous au travers les achats donc évidemment un objectif donc important donc puisqu'en fait donc c'est une très très forte contribution donc à la marge donc à la marge finale, cette marge brute. Donc nous continuerons en fait donc de travailler cette marge brute donc mais bon après bon il y a tout ce qui se passe en dessous qui concerne en fait donc les coûts d'opération donc bon, qui voilà continueront d'être optimisés donc dans les mois à venir.
Nous avons une autre question depuis Monsieur Deschamps. Pouvez-vous rappeler votre exposition au spatial? Ses perspectives sont-elles ternies par la guerre en Ukraine?
Non, sur le spatial, donc nos activités en fait sont essentiellement en fait donc de la communication, bon, essentiellement pour supporter en fait donc les efforts donc de déploiement de la 5G. Donc la 5G en fait donc ce qui est particulier en fait donc de la 5G, c'est que c'est une technologie qui permet d'avoir un débit donc largement supérieur à la 4G, mais donc pour la grosse difficulté de la 5G, c'est qu'il faut en fait avoir un nombre d'antennes donc terrestres, donc un nombre d'antennes important, parce qu'en fait donc bon, les distances en fait donc de propagation sont moindres que la 4G. Donc et c'est pour ça en fait donc que des relais en fait donc sont aujourd'hui déployés à partir de l'espace, donc à partir des satellites donc notamment. C'est la raison en fait donc c'est une des raisons en fait donc du déploiement de ces constellations de satellites donc qui vont en fait donc permettre de transférer en fait donc le signal optique au-dessus de la Terre et puis de refaire le transfert ensuite donc du satellite donc vers la Terre. Donc, nous sommes donc essentiellement en fait donc sur la production en fait donc d'éléments optiques donc dans les satellites aujourd'hui et de plus en plus donc dans les stations terrestres en fait donc pour faire le lien entre donc la Terre et les satellites. Donc bon, ce sont donc des marchés en pleine expansion, donc nous avons une bonne position de leadership donc sur ces technologies, et particulièrement là aussi avantagés par le fait que nous avons des composants critiques que nous fabriquons en interne. Donc pour fabriquer nos amplificateurs optiques par exemple, donc nous avons aujourd'hui des diodes, donc des composants passifs, nous aurons bientôt en fait de la fibre optique donc spatialisée. Tout ça en fait donc tout ça sont des composants donc compliqués donc à obtenir en fait donc de tiers et qui sont potentiellement très cher aussi, puisqu'en fait donc bon, il faut les qualifier en fait donc pour des environnements spatialisés, donc ce qui est quand même assez complexe. Donc ça nous donne un vrai avantage, donc une belle position de leadership donc en fait donc sur ces technologies. Alors sur l'exposition par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, donc non, pas vraiment, il n'y a pas de que ce soit en négatif ou en positif d'ailleurs, donc il n'y a pas d'impact donc de la crise russe-Ukraine donc aujourd'hui en fait sur ce domaine là.
La prochaine question provient toujours de M. Deschamps. Continuez-vous d'anticiper une croissance dans l'industrie scientifique en 2022 malgré l'excellente performance de 2021?
Oui, en fait, on continuera de voir une croissance sur ce segment de marché parce qu'en fait, donc on a maintenu en fait donc nos contrats OM qui sont plutôt en progression. Et bon, il y a toujours une activité scientifique soutenu en fait et avec un bon backlog qui nous donne donc beaucoup de confiance en fait sur ce segment de marché.
La prochaine question provient depuis Monsieur Éric Blain depuis Finance Connect. Quel est le montant de l'acquisition de la branche de sable? Est-il compris dans le 30 millions d'investissement?
Alors il n'est pas compris hein, dans les 30 millions d'investissements. Donc alors bon, sans vous donner des chiffres, donc moi je peux vous dire que bon, c'est une très belle affaire. Donc ça a été en fait donc négocié en fait donc sur le dans un contexte qui nous a vraiment avantagé en fait. Donc je vais pas vous révéler de secret. Mais enfin voilà, en tout cas c'est une très belle affaire. Qu'on considère comme étant extrêmement, enfin voilà, pas très cher payé qui nous apportera beaucoup de beaucoup de bonnes choses en termes de croissance d'activité et de génération de rentabilité.
La prochaine question est toujours depuis Monsieur Blin. Quel est le montant des R&D amortis dans l'exercice 2021?
5,1 millions d'euros.
Merci. Nous avons une question depuis Stéphanie Brunel, depuis Financière d'Uze. Dans le médical, avez-vous déjà identifié les cibles en gynécologie et oncologie? Et quels sont les niveaux de valorisation dans ce domaine?
Alors, des cibles de marché, oui. Des cibles d'entreprise qui nous intéressent, oui. Et les valorisations sont très, très, très élevées. C'est pour ça qu'on se concentre principalement aujourd'hui pour aller chercher des technologies qui nous manquent ou des segments qui nous semblent intéressants, que ce soit dans le diagnostic ou dans le traitement. Pour préciser sur l'oncologie, par exemple, aujourd'hui, via notre fonctionnement OIM, on est présent dans la... On a implanté nos lasers dans des IRM qui servent à traiter le glioblastome aux États-Unis, des choses comme ça. Donc oui, nous avons identifié des cibles, encore une fois, mais les valorisations étant élevées, on se concentre principalement sur le développement de marché avec des briques technologiques supplémentaires.
Nous avons encore une question depuis Madame Brunel. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer la nécessité d'investir dans un avion privé pour 3,9 millions d'euros? Cela permet-il aussi le déplacement de matériel? Merci.
Alors, mon intérêt, en fait, pour nous, c'est de gagner en efficacité. Donc, ce n'est pas un avion réservé à la direction, si on peut dire. Donc on déplace, en fait, les équipes. C'est un moyen de transport qui nous fait gagner énormément de temps. Pour les équipes, pour aller sur les différents sites en Europe. Ça nous permet également de transporter en fait un peu d'équipement. À noter quand même que cet avion est mis en location également. C'est-à-dire que c'est pas bon, il est certainement propriété de Hummingbird, mais on couvre en fait en partie en fait ses coûts très très largement en fait ses coûts. Puisqu'en fait on n'a pas un usage à 100% en fait de l'appareil, de ce fait le coût d'exploitation n'est pas si élevé que ça, si on peut dire un peu de l'avance de trésorerie. On en a donc l'objectif pour nous est de gagner vraiment en efficacité.
Nous avons une série de questions depuis Monsieur Arthur Bernasconi depuis Gay-Lussac Gestion. Bonjour, bravo pour vos résultats. 1. Le contrat sur le laser mégajoule touche à sa fin. Néanmoins, vous assurerez toujours la maintenance des MPA. Pouvez-vous nous communiquer le montant de chiffre d'affaires à atteindre sur la maintenance de ces MPA? 2. De nouveaux contrats étaient en négociation avec Thales. Où en êtes-vous? 3. Pouvez-vous rappeler qui sont vos clients sur la division industrie? Pouvez-vous commenter davantage la bonne performance de cette division industrie? Merci.
Alors, sur le mégajoule, sur la partie maintenance, en fait, on n'anticipe pas un volume d'activité de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros annuel. Sur la deuxième question, les relations avec Thales, on avait déjà en fait communiqué sur des contrats en fait de développement sur le laser bleu qu'on appelle le laser bleu, en fait le laser français en fait la nouvelle génération de laser français qui va équiper en fait les nacelles d'observation du Rafale. Mais également en fait un contrat de développement sur un télémètre également 100% français. Donc là on voit bien en fait la volonté en fait des industriels de défense à s'orienter en fait vers la souveraineté. Et donc également donc d'autres contrats en lien avec de la télémétrie donc terrestre. Donc pour équiper les fantassins et également des discussions en cours en fait donc sur des constellations satellites. Donc sur la troisième question donc sur la performance donc de la division industrie, donc c'est vrai que c'est porté donc beaucoup en fait donc l'an dernier en fait donc par deux grands comptes donc industriels, donc un sur le médical, donc un sur la réparation d'écran plat. Donc ces grands comptes en fait sont maintenus en fait donc en 2022. Donc ça rajoutera en fait donc à ça en fait donc d'autres activités. Donc c'est pour ça qu'on reste confiant en fait donc sur cette performance donc de la division industrie.
Nous avons une question depuis Vincent Steinmann, depuis ZADIGAM. Bonjour, anticipez-vous des ordres pour le LIDAR automobile en 2022? Est-ce en partie pour cela que le CAPEX monte significativement en 2022?
Alors, donc, on continuera en fait donc, les commandes en fait donc sur la DAS donc en 2022. Maintenant, donc, on ne sera pas encore sur les très gros contrats, donc parce qu'ils ont été décalés, mais on reste donc toujours mobilisé en fait donc sur cette activité, donc et ça devrait être donc en croissance donc par rapport à l'an dernier. Ce sera moins brutal en fait donc que ce qui avait été prévu. Enfin bon, le jour où ça va décoller, ça sera effectivement brutal. Donc là encore une fois, donc on ne maîtrise pas donc les échéances donc des clients, donc pas toujours très clair, mais en tout cas le besoin est là et bon, l'activité reste encore extrêmement soutenue. Donc les capex donc ne sont pas aujourd'hui donc liés à cette activité à DAS, donc c'est plus lié en fait donc aux activités en fait donc de fabrication de fibres donc optiques et d'augmentation de la capacité de production à l'Agnon donc notamment. Donc en anticipation justement de la DAS, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais également en fait sur les activités donc spatiales et médicales.
La prochaine question provient depuis Monsieur Laurent Parmentier de Chaussier Gestion. Bonsoir. Êtes-vous impacté par l'approvisionnement en gaz néon, notamment pour vos lasers ophtalmologiques?
Non, en fait, parce qu'en fait, nous ne fabriquons pas en fait donc de lasers à gaz. Donc tous les lasers que nous fabriquons sont donc soit en fait donc lasers à fibre, donc soit des lasers solides, donc soit des lasers à semi-conducteurs, mais nous ne fabriquons pas de lasers à gaz, des hélium néon. Voilà.
Mesdames et messieurs, les questions sont terminées.
Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, donc merci encore donc à vous tous en fait pour votre intérêt donc et votre soutien en fait donc sur le projet Lumibird. Nous continuerons à travailler ardemment pour satisfaire en fait vos intérêts donc en tout cas donc sachez que nous restons extrêmement confiants et nous sommes complètement mobilisés en fait donc sur la croissance et la belle performance du groupe Lumibird. Merci à tous donc et à très bientôt.